pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Ouais, peut-être que la fatigue rend drôle, c'est pas sûr. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, c'était très drôle. Bonjour à toutes et à tous.
Comme tous les jours, vous nous proposez un lien entre l'actualité et la philosophie. Quelle est votre actualité du jour et votre philosophie du jour?
Alors, vous venez d'écouter du Bach, on va écouter de l'opéra et se demander ce qu'en disent les philosophes. Car comme le souligne Olivier Lexa dans son essai tout juste paru aux éditions des archives Caroline, ce qui manque, c'est une pensée de l'opéra, une pensée en tout cas actuelle de l'opéra. Incompatible avec la langue française, selon Rousseau, liée au fascisme du XXe siècle, considéré comme un genre désuet, conventionnel, artificiel, ridicule et bourgeois par les intellectuels du siècle dernier, notamment Adorno ou Brecht, qui le définissaient, je cite, « comme un art culinaire et vespéral qui ne peut être rénové », l'opéra a pourtant retrouvé une jeunesse au début des années 80, avec Pierre Boulez et sa production du Ring, et c'est ainsi que Barthes, Deleuze ou Foucault en ont fait un objet d'étude. Mais avant et après, que s'est-il vraiment passé par rapport à l'opéra? Quelle philosophie de l'opéra tracée à travers les siècles?
Presto, presto, priez che venga, por mi voda qualche lato, c'è una nicchia, qui c'è lato, credo che non mi mostrar.
Senti, dove vai? Ma non t'ascoltare, se ti trovo, povera, tu non sai quel che può far, povera, tu non sai quel che può far.
Faccia mica quel che vuole, parla forte che non resta,
di capriccio della testa,
parla forte che non resta.
C'est à Kierkegaard que l'on doit de très belles pages consacrées à l'opéra de Mozart, Don Giovanni. En 1843, dans les stades immédiats de l'Eros, où l'Eros est la musique, il déclare ainsi son amour à cette pièce qui lui semble surpasser toute œuvre musicale. Ce qu'il dit de cette œuvre semble toutefois paradoxal. Comme le remarque Olivier Lexa, à aucun moment il n'évoque le livret de la pièce, l'aspect visuel du spectacle, ou seulement pour dire qu'il entrave la musique. Et surtout, il n'emploie le terme d'opéra qu'au bout de 50 pages. Autrement dit, il ne parle pas d'opéra. Alors, de quoi parle-t-il? Eh bien, justement, uniquement de son expérience de la musique. Il dit même avoir voulu, je cite, s'y cacher complètement. Mais jamais il n'est question du lyrisme ou de la scène, et c'est bien. Le problème de l'approche de Kierkegaard, quoi qu'on puisse penser quand même que parler de musique à l'égard d'un opéra ne soit pas non plus totalement hors sujet, mais c'est aussi le problème que pose l'opéra, par quel angle le prendre, sur quelle dimension s'appuyer, la théâtralité, la voix, le livret ou la musique, sachant que chacune de ces dimensions est déjà problématique par elle-même, ou faut-il partir du récit lui-même avec son aspect universel ou encore de l'interprétation unique et singulière qui est proposée chaque soir d'une pièce. C'est difficile de prendre la parole sur du Wagner, sur Tristan.
Tristan et Iseult, bon courage Géraldine.
Oui, mais bon, il faut bien faire une philosophie de l'opéra et le cas Wagner est incontournable et grâce à Nietzsche, il reste Nietzsche le plus grand penseur de l'opéra et loin d'être une contrainte, c'est justement parce que l'opéra est un art total que l'on peut en faire une philosophie. Mais alors laquelle? Eh bien celle d'une intensification de la vie, parce que non seulement tous les arts y sont réunis, ordonnés et disposés en détail, et parce que lorsqu'on écoute du Wagner, il y a quelque chose de la noyade. Il y a, je cite un extrait du cas Wagner, qu'il faut s'imaginer que l'on entre dans la mer, perd pied peu à peu et pour finir s'en remet à la merci des éléments. Il ne reste plus alors qu'à nager. Et pour comprendre cette philosophie proposée par Nietzsche avec Wagner, Olivier Lexa, dans cet essai, propose en plus de le rapprocher de Monteverdi, de mettre face à face Tristan et Iseult et Orfeo de Monteverdi donc. Source mythologique référence à la pastorale, thème de la rédemption par l'amour et l'interdit, Wagner et Monteverdi, avec Tristan et Orfeo, se répondent et se rejoignent. Si la philosophie de l'opéra est celle d'une intensification de la vie, telle une noyade dont on survit, ce rapprochement de Tristan et Orfeo révèle la modification précise que produit l'opéra sur notre perception. Par l'attention au timbre et aux couleurs de l'orchestre, l'éclatement de la tonalité, l'effet de suspension, on accède, comme le dit Olivier Lexa, à un autre présent, une réalité cachée. Par la distorsion des éléments, la transformation des rêves en réalité ou l'éveil des pulsions enfouies en nous, eh bien la vie s'intensifie, elle œuvre, elle opère.
Merci Géraldine pour cette philosophie de l'opéra et c'est le titre du livre dont vous nous parlez.
C'est Monteverdi et Wagner, Penser l'opéra d'Olivier Lexa et c'est paru aux éditions Archives Caroline.
Penser l'opéra. Merci Géraldine, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.